Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. Bien, c'est notre rituel. Évoquer la marche ou la randonnée en reprenant ce concept vu et vécu par un philosophe ou un écrivain. Aujourd'hui, Arthur Rimbaud, poète français bien connu du 19e siècle, célébré pour ses visions novatrices et sa manière unique d'explorer les thèmes tels que le voyage, la temporalité et l'existence. La marche, symbolique et réelle, est un sujet récurrent dans ses écrits. Dans ses poèmes, Rimbaud utilise la marche comme une métaphore de la quête de soi et de l'évasion. Dans des œuvres comme « Le bateau ivre », la marche, mais pas seulement la marche, il y a aussi ses expériences au vin et à la joie de vivre. Donc dans « Le bateau ivre », Rimbaud décrit un voyage intérieur, une exploration des sensations et des émotions. Cette interaction entre le vin, la marche et la découverte est centrale dans l'œuvre de Rimbaud, soulignant son désir de transcender les limites de la réalité quotidienne. Rimbaud évoque les paysages, la nature et les transformations que la marche peut engendrer, soulignant le lien intime entre l'être humain et son environnement. Rimbaud associe souvent la marche à une forme de rébellion et d'affranchissement. Ses voyages, tant physique qu'intellectuel, reflète son désir de rompre avec les conventions et d'expérimenter la vie à travers des prismes nouveaux. En marchant, il découvre des réalités cachées et remet en question les idées établies de la société de son époque. L'écriture de Rimbaud sur la marche illustre ainsi une exploration poétique de l'espace, du temps et de l'identité, en faisant de chaque pas un acte de libération et de création.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Pour le conseil du jour, je reviendrai sur une actualité que je n'avais pas signalée. Vous utilisez tous les fameuses cartes hygiènes. Et certains d'entre vous utilisiez sans doute aussi le site IGN Rando. Eh bien, depuis le 20 novembre, ce site ne répond plus. Il n'a pas totalement disparu. En fait, il a été remplacé par l'application WeTrek, W-E-T-R-E-K. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il vous suffit de mettre à jour l'application sur votre smartphone. Et si vous aviez des données sur ce site, vous pouvez les récupérer depuis le site mesdonnées.ignrando.fr.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez « Je marche, donc je suis ». I'm not trying to have another conversation.
Probably not gonna wanna play me on your station. Bien, maintenant, sans transition, donc nous allons évoquer ces parcours si particuliers que vous avez sans doute empruntés au cours de randonnées que certains plus rares se sont échinés à accomplir en partie ou en totalité. Je fais référence donc au fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour cela, je reçois Guy Mathéo, qui est le président de l'association, c'est l'association pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Languedoc-Roussillon. Donc, bonjour Guy.
Bonjour Robert, merci de m'accueillir.
Donc, nous allons commencer déjà par parler de cette association dont le siège est à Montpellier.
Voilà, c'est une association qui a été créée en 1996 par Joseph Fraissinet, oui. Le professeur Joseph Fraissinet, qui était maire de Saint-Guilhem-le-Désert. Voilà, notre association compte actuellement une cinquantaine d'adhérents. Oui. On a eu un pic avant Covid à 150, mais bon, on a subi le Covid, une cinquantaine d'adhérents et nous gérons un espace qui va de Saint-Gilles jusqu'à Narbonne et un descendant sur, sur Perpignan. Voilà.
Voilà, c'est balisé par les grandes abbayes d'ailleurs, Saint-Gilles.
Balisé par les grandes abbayes. Et le chemin, je me plais à dire, le chemin le plus ancien de France, voire même le plus ancien chemin de Compostelle, puisqu'on a des traces dès le début du Xe siècle de pèlerins qui utilisaient ces traces.
Oui. Donc, cette association, donc, qui en fait, le siège est à Lattes, je crois, et vous avez aussi. Un excellent site.
Oui, alors le siège est à Saint-Guillaume-le-Désert, c'est à la mairie de Saint-Guillaume-le-Désert, puisque c'était le maire de Saint-Guillaume-le-Désert et que la mairie nous accueille. Et on a des liens particuliers avec Saint-Guillaume-le-Désert, hein, qui est vraiment
une autre abbaye,
bien sûr. À Lattes, nous avons un accueil pèlerin qui ouvre une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois à 17h30, on accueille les postulants pèlerins qui viennent rencontrer les anciens pèlerins. Et puis on échange toutes les questions. C'est combien, c'est où, c'est quelle distance, c'est quel poids, comment j'attache mes chaussures. Voilà.
C'est tout un programme pour préparer un pareil périple. Pour ceux qui connaissent peut-être moins ces chemins, on va quand même faire un petit clin d'œil historique pour rappeler d'où ça vient tout ceci.
Eh bien, tout commence avec Saint-Jacques. Saint-Jacques, qui était, petit rappel, un apôtre, voilà, le fils de Zébédée et le frère de Jean, les premiers apôtres, tous les deux pêcheurs sur le lac de Tibériade.
On remonte à Jésus-Christ. Hein.
On remonte à Jésus-Christ. Voilà, on est à zéro là. En 33 après la crucifixion, Saint-Jacques part évangéliser la péninsule ibérique, le Finistère, la fin des terres connues à cette époque-là. Il revient en l'an 44 et là, le roi Hérode Agrippa le décapite.
Ouais. Pas de cadeau. Ouais.
Fin de l'histoire historique. Son corps est jeté au-dessus des remparts, est récupéré par des compagnons Athanase et Théodore. Le mettent, ça devient de la légende, on est d'accord, le mettent dans une barque en pierre, sans gouvernail, et la barque en pierre va traverser la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, et finir en Galice en 7 jours. Ça, c'est la légende.
C'était un record. Il devait y avoir du vin, je pense.
Voilà.
Parce que pour atteindre une pareille performance.
Et une reine tout fraîchement convertie va le récupérer, la reine Lupa, et mettre le corps dans un tombeau. Et on n'en entend plus parler pendant 800 ans.
800 ans,
voilà.
Oui.
En 814, l'ermite Pélage découvre les restes, authentifiés par l'évêque Théodomir, oui, qui est l'évêque d'une localité à côté, Ira Flavia. Et rien ne dit comment les restes ont été authentifiés. Il y a un coup de tampon officiel de l'évêque local, parce que même l'Église n'est pas d'accord au départ. Ils sont assez fâchés, Rome est assez fâchée avec Compostelle, et donc va authentifier ces restes, et le pèlerinage va démarrer. Ça va prendre une ampleur phénoménale dès le...
C'est le début du Moyen-Âge.
Début du Moyen-Âge, au Xe siècle, les pèlerinages commencent. Et on a, par exemple, l'évêque du Puy-en-Velay,
oui,
en recherche de reliques mariales, qui va aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais il ne va pas utiliser la voie du Puy, qui est une invention du XXe siècle. Là, il va partir à Lyon. À Lyon, il va suivre le Rhône jusqu'à Arles pour arriver à Saint-Gilles. Saint-Gilles était le départ, c'était le haut lieu de la chrétienté, voilà, au Moyen-Âge. Et il va partir de Saint-Gilles en utilisant la Via Domitia, la voie romaine qui amène tout le monde jusqu'au col de Panissard, à Perpignan, là-bas. Ouais. Et là, il va rejoindre la vallée de l'Embre pour rejoindre une voie romaine qui servait à ramener l'or de Las Medulas en Espagne. Voilà. Donc, c'est un des premiers des pèlerinages décrits. Ensuite, au XIIe siècle, il y a un ouvrage qui va être rédigé par le pape Calixte II et qui est toujours à Saint-Jacques-de-Compostelle,
oui,
et qui va décrire premier livre le rituel, deuxième livre la translation, puisque tout le monde se pose la question comment on appelle ça translation, comment le corps de Saint-Jacques va transiter de Jérusalem à Compostelle. Voilà. Et notamment, ce qui nous intéresse le plus, c'est le livre 5 qui est écrit par le moine Turpin, un moine français qui était de Reims.
Oui.
C'est le livre 4 qui est écrit par le moine Turpin et qui va raconter l'histoire de la découverte des restes de Saint-Jacques par Charlemagne. Donc là, c'est une autre dimension. Voilà. Le livre 5 qui nous intéresse, c'est Aimery de Picot, qui lui va décrire les quatre lieux saints en France, d'où sont originaires les pèlerins, Paris, le Vézelay, Tours, oui. Le Puy-en-Velay et Saint-Gilles. Mais il ne va décrire que deux itinéraires. L'itinéraire qui part de Saint-Gilles et qui rejoint Saint-Jean-Pied-de-Port.
Oui.
Et l'itinéraire de Tours qui rejoint aussi Saint-Gilles, Saint-Jean-Pied-de-Port pour rejoindre le fameux Camino Frances,
voilà.
Le chemin français qui est tracé. Voilà. Mais qui est aussi une invention du Xe siècle. Le gouvernement espagnol, les différents rois espagnols vont sur cet itinéraire créer des villages tous les 30 kilomètres,
ouais.
et vont même faire des conditions particulières aux pèlerins qui voudraient y rester. Donc ils obtiennent soit la nationalité, soit des terrains, soit des maisons, tout ça. Donc ça va renforcer cet afflux de pèlerins qui arrivent de l'Europe. Il ne faut pas oublier non plus que l'Église est en reconquista, hein, et qu'elle a besoin de chrétiens pour venir recoloniser le nord de l'Espagne. Oui. Voilà.
Ce qu'il faut dire aussi, alors, après cette période, on va dire faste, il y a eu une période un peu moins faste, Moyen-Âge tardif, où là, il y a eu un peu, l'Église a été un peu secouée, l'Église catholique a été un peu secouée, à la fois par les indulgences, et également par le protestantisme, avec Luther, déjà, d'abord, avec la Bible pour celle autorité chrétienne. Là, on est au 31 octobre 1517. Et puis, plus tard, avec Jean Calvin, et sa rupture qui date donc de 1530. Là, il y a eu un peu une baisse, je crois.
Oui, voilà, c'est ça. Le pèlerinage va connaître son apogée au XIVe siècle, avec 500 000 pèlerins qui arrivent à Compostelle. C'est monstrueux. Ensuite, les épidémies, les guerres de Cent Ans, la réforme protestante, les conflits entre la France et l'Espagne, les guerres napoléoniennes, tout ça, tout va s'effondrer doucement. Et on arrive à une quarantaine de pèlerins en 1867.
Voilà. Alors, on va faire une petite pause là, avec ce début historique. Et donc, nous allons essayer de voir du côté de James Chambers, plus connu sous son patronyme de scène, Jimmy Cliff, un des maîtres du reggae qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, c'était ce 24 novembre. Et nous allons entendre, non pas Reggae Night, l'un de ses tubes mythiques, mais une de ses premières chansons à succès de 1969, Many Rivers to Cross.
Such a drag to be on.
woman left me, she didn't say why. Well, I guess I have to try. Many rivers to cross, but just where to begin? I'm playing for time.
Robert Maldric, Radio FM+, Je marche donc je suis, deuxième partie. Donc nous poursuivons, nous reprenons la route des chemins de Compostelle avec Guy Matteo. Donc historiquement, après je dirais le coup de mou qu'il y a eu là, je dirais en fin du Moyen-Âge, cela reprend Guy, environ
oui, ça la reprend, notamment après 1879. Oui. Où l'Église va reconnaître officiellement les reliques de Saint-Jacques et donc le pèlerinage se met en place. Un autre phénomène en France, en 1938, une des six historiennes qui va créer la société française, une société savante s'occupe de tout ce qui est Compostelland.
Qui s'occupe toujours d'ailleurs.
Qui s'occupe toujours, nous sommes adhérents de cette société. Donc Jeanne Veillard va refaire une lecture du livre 5 et va réécrire en décrivant des itinéraires, notamment les deux itinéraires qui n'étaient pas cités et décrits dans le livre 5, c'est-à-dire le Puy-en-Velay Saint-Jean-Pied-de-Port et Tours Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, le pèlerinage va prendre son essor et ça va monter en puissance d'année en année pour arriver en 2024, c'est-à-dire l'année dernière, au 31 décembre, 499 000 pèlerins qui sont arrivés. Et je pense que cette année, on a déjà passé les 500 000 pèlerins. Voilà.
Ce qui est quand même énorme, globalement.
Qui arrive, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire ceux qui arrivent à Compostelle, on ne dit pas ceux qui sont au milieu, tout ça. Voilà.
Ouais. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vu la longueur du périple, rares sont ceux qui le font à une seule traite, je dirais, sur plusieurs semaines. Et beaucoup font chaque année font 15 jours, par exemple, sur des tronçons qu'ils ajoutent pour arriver enfin jusqu'à Compostelle.
Oui, il faut savoir qu'il y a 1400 km, il y a 62 jours, on a mis, pour faire le chemin. Il faut savoir que la première semaine, on le fait dans la souffrance physique, parce que 25 km par jour, le corps n'est pas habitué.
C'est la moyenne.
Voilà, c'est la moyenne. Voilà. Ensuite, on sort des problèmes psychiques au bout de 3 semaines. Hein, et l'expérience, elle est grandiose quand on le fait dans l'intégralité. C'est un peuple en marche. Oui. On côtoie des gens de toutes les nationalités et on apprend l'humilité et on apprend à connaître l'autre dans toute sa simplicité.
Oui. C'est chaque fois quelque chose, je trouve, d'assez remarquable et c'est toujours d'actualité. Car en fait, on retrouve plusieurs profils de marcheurs dans ce cadre-là. Il y a des milliers de pèlerins. Quelques-uns animés par la quête spirituelle, on va dire. D'autres, c'est une quête personnelle. Hein, une victoire sur soi ou une recherche de performance. Et enfin, il y a tous ceux, sans doute les plus nombreux, qui, eux, sont animés par l'amour de la rando.
Absolument. Et si vous le permettez, j'ai quelques chiffres qui datent de 2017, certes. 43%, c'est le fond dans un but religieux.
C'est quand même 43%.
43%, oui. 47% pour d'autres raisons. 9% pour des raisons sportives aussi. On peut additionner les deux. Hein. Il y a 55% d'hommes, 55% de femmes. Et puis les modes de déplacement, à pied pour 80%, à vélo pour 10 à 20%, à cheval un demi pour cent. Et il ne faut pas les oublier, en fauteuil roulant, il y en a une bonne centaine qui le font en fauteuil roulant, accompagné par les copains, les amis, la famille.
Voilà. Ouais. Ouais.
Donc ça, c'est les derniers chiffres de 2017.
Ce qui est intéressant de voir, de toute façon, je pense que les populations qui participent évoluent avec le temps et ce sera bien de voir dans les années à venir comment on va. Si, d'une part, cet engouement persiste, c'est-à-dire ça continue à progresser, vu l'intérêt porté par la randonnée, il est fort possible que ça continue à progresser, n'est-ce pas ?
Absolument, oui, les gens sont... C'est la dernière, c'est comme ça que je la décris, la dernière aventure dans notre société, la dernière aventure humaine accessible à tout le monde. Vous en avez marre, il y a un problème. Vous claquez la porte et vous partez et vous videz, vous faites une vidange complète de votre esprit, de votre corps. Votre corps, vous revenez après 2 mois de marche, vous êtes garanti de ne plus avoir une maladie pendant 2 mois, hein, 6 mois, 1 an.
À moins que vous n'ayez un problème aux jambes, ce serait malheureux, ça peut arriver malheureusement. Ce n'est pas ce que l'on vous souhaite. Donc, ce qui m'a frappé moi aussi sur ces chemins, quand on invite certains, sur certains, il y a la fameuse, je dirais, la fameuse emblème de Saint-Jean-de-Compostelle, qui est la fameuse coquille.
La coquille. Alors, la coquille, c'est une coquille que les pèlerins trouvaient. Ils arrivaient à Saint-Jacques, mais Saint-Jacques, c'est pas fini. Le pèlerinage n'est pas fini. Ils allaient jusqu'à la fin des terres, Finistère en français, Fisterra en espagnol. Ils allaient 90 km de plus et ils ramassaient une coquille sur la plage. Partant de là, à Finistère, ils brûlaient leurs vêtements et ils revenaient en se créant, reconstruisant leur nouvelle vie. Ils revenaient chez eux avec la coquille qui était le témoignage. Ensuite, petit à petit, cette coquille a été remplacée par la lettre de créance qui va être tamponnée dans tous les points de passage, qu'on appelle le créancial, si elle est à connotation cultuelle, oui. Ou le crédential, si elle est laïque. Voilà. Nous délivrons des crédentials. Donc, vous faites tamponner votre lettre de créance dans tous les hébergements, tout le long du chemin. Et quand vous arrivez à Saint-Jacques, on vous remet la Compostella. En fait, c'était l'absolution de tous vos péchés, parce qu'au départ, bien sûr, le pèlerin était contraint. C'est l'Église qui met en place une punition pour repeupler l'Espagne, on va dire, rapidement.
Très bien. Donc, ceci fait aussi partie donc, de l'histoire. Et comme c'est quelque chose de très vivant, vous préparez un événement particulier, je crois, pour 2027.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il en est, donc, Guy ?
Voilà. En 2027, en fait, faire un petit peu l'historique, en 2023, la Fédération européenne et la Fédération française se sont aperçus que le chemin du Puy était saturé. Il y a énormément de pèlerins. On arrive à des pics de 200, 250, 300 départs par jour. Donc, ils ont dit qu'il y a d'autres chemins, notamment cette voie historique qui est la première, la plus ancienne, qui est authentique. Donc, on va donner un coup de projecteur européen sur ces voies du Sud. Donc, il va y avoir 3 bourdons qui vont partir de Rome, rejoindre la frontière italienne, un à Montgenèvre, un à Menton et l'autre par Bonifacio. Ces 3 bourdons vont arriver et se rejoindre en Arles. Et d'Arles, ils vont cheminer jusqu'à Montpellier. Montpellier, ils se sépareront pour suivre la voie du Piémont pyrénéen qui...
Il y a 2 voies, là, qui descend vers Perpignan, on va dire.
La voie qui va descendre vers Perpignan, c'est-à-dire la Via Domitia. Un bourdon qui va rester donc, sur cette voie du Piémont pyrénéen et qui va rejoindre... Oloron-Sainte-Marie et ensuite Saint-Jean-Pied-de-Port, et l'autre qui va rester au nord et qui va rester sur le GR 653.
Qui passe à Auch, qui passe, disons, un peu plus haut.
Voilà, sur la Via Tolosana. Donc c'est un événement que Ça y est, c'est le coup d'envoi. C'est aujourd'hui la première officielle chez
vous. On est très heureux d'annoncer en premier ce nouveau... qu'est-ce qu'on entend par Bourdon, d'ailleurs ?
Bourdon. Alors, le Bourdon, c'est le bâton de pèlerin, c'est le bâton de marche du pèlerin. Voilà. D'accord. Donc, il y aura trois bâtons stylisés. Donc, là, vous voyez, et les auditeurs ne le voient pas, c'est le Bourdon qui va arriver. Il arrive de Jérusalem, celui-là. C'est un menuisier de Jérusalem qui est en train de le fabriquer. Donc, il va y avoir cette symbolique. Et en accord avec toutes les municipalités, les associations, puisque ces bourdons vont être transmis de main en main, de marcheur en marcheur et d'association en association, on va leur offrir une couverture médiatique, on va leur offrir tout l'événementiel qu'on peut mettre autour de... un petit peu dans le style de la flamme olympique. Voilà. Hein, on regarde
dans l'esprit.
Voilà.
On transmet chaque fois.
Voilà, on transmet jusqu'à Compostelle, on transmet et on implique toutes les associations, toutes les fédérations de marcheurs, hein, puisqu'on a déjà des associations de jeunes handicapés qui veulent participer et qui n'ont rien de Compostelle. Hein, voilà.
Très bien. Alors, je suppose que en prévision de ces événements, ça vous donne un peu de travail peut-être sur le terrain, parce que je crois que vous participez à l'entretien.
Oui, on participe à l'entretien des chemins, la promotion et l'entretien. On fait du balisage rouge et blanc ou jaune et bleu, puisque il y a eu un conseil des ministres européen qui a défini les règles pour toute l'Europe. Donc, on a le balisage jaune et bleu dans le même style du balisage des GR.
Qui
est rouge et blanc. Avec les mêmes normes que les GR et avec les accords, bien entendu, des départements, des comités départementaux de randonnées pédestres. Pardon.
Oui, effectivement, c'est... relativement, c'est très structuré et bien organisé.
Ah oui, oui.
Il y a des chemins qui sont, il faut le rappeler, ce sont des chemins balisés qui peuvent être qui sont entretenus et qui peuvent être
absolument
empruntés,
dans le cadre de la loi française de 83 qui nous oblige à faire une déclaration, et avoir les autorisations des communes, des propriétaires. Enfin, c'est quelque chose qui est très très encadré. Et ça met du temps.
Oui. Parce que c'est, vous essayez de faire perdurer, parce que malheureusement, la propriété privée, parfois, prend quelques aises. Mais là, vous essayez de conserver ce qui existait et de le maintenir et de l'entretenir.
Absolument. Et lui donner un statut juridique, c'est-à-dire l'inscrire au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, au même titre qu'un GR qui est aussi inscrit. Donc, il y a des démarches à faire au niveau de l'État, du conseil départemental et de la Fédération de randonnée pédestre, et surtout des communes qui vont donner des décisions de conseils municipaux pour valider ces tracés.
Très bien. Eh bien, merci Guy pour toutes ces informations. On aura l'occasion de se retrouver à nouveau pour reparler de ces fameux voies du Sud qui vont être relancées. Oui.
Le 15 avril à Montpellier. Hein, ça y est, la date elle a été fixée il y a très peu de temps. Donc le 15 avril, ça arrivera à Montpellier. Après, toutes les autres dates s'empilent.
Donc voilà, 15 avril 2027 à Montpellier. On vous rappellera ces événements assez remarquables. Voilà, Radio FM+, notre chronique hebdomadaire numéro 13 se termine. Pour retrouver nos émissions, allez sur notre site www.radiofm+.org. Vous pouvez récupérer le podcast de cette émission et des précédentes d'ailleurs, soit en allant directement dans le programme, soit en cliquant et en ouvrant la rubrique développement perso. Bien sûr, vous pouvez interagir sur ce podcast ou directement par mail à contact@radiofmplus.org. Merci à Guy Matteo, président donc de cette association.
Merci à vous.
On se sépare en musique avec un chant que tu as sélectionné, je dirais.
Oui, mais le chant d'envoi des pèlerins dans la basilique du Puy-en-Velay, c'est Ultreia. Ultreia, c'est le cri des pèlerins plus haut, plus loin.
Voilà, donc on se quitte avec le chant des pèlerins. Bye bye, à la semaine prochaine, 10h.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Poultreia, Poultreia, es o Seia de Rosario Mano. Chemin de terre et chemin de foi, trois millénaires de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les jacquets. Poultreia, Poultreia, es o Seia de Rosario Mano. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours, son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Poultreia, Poultreia, es o Seia de Rosario Mano. Poultreia, Poultreia, es o Seia de Rosario Mano.